Nous revenons donc à notre exploration de ce qui fait crise dans la démocratie aujourd'hui, à l'heure de la décantation complète de l'autonomie structurelle. Je vous propose de repartir d'une petite histoire de la démocratie des modernes depuis qu'elle a commencé à prendre corps avec les révolutions des droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle. Juste une sommaire mise en perspective qui nous permettra de mieux mesurer où nous en sommes dans ce déploiement de deux siècles. La démocratie des modernes, entendons la démocratie qui se définit par une triple originalité en regard de la démocratie des anciens. Pour commencer, elle a son site dans une forme politique très différente de la cité antique, celle de l'État-nation. Elle s'appuie ensuite sur un droit universel des individus. Enfin, elle se déroule dans une temporalité progressive, tournée vers l'avenir, dont l'enjeu n'est pas mince, puisqu'elle autorise la perspective d'une reconstruction en raison, pièce à pièce, du monde humain. Toute l'histoire de la démocratie depuis deux siècles se ramène, au fond, à une explication avec ses trois dimensions: politique, droit, histoire. Car ces trois dimensions sont grosses chacune d'implications formidables et infiniment difficiles à maîtriser. Je m'en tiendrai à un seul fil conducteur de cette histoire, parmi bien d'autres possibles, le fil conducteur de la promesse démocratique, telle qu'offerte aux acteurs et vécue par eux en fonction de cette structuration de leur monde. Il y aurait d'ailleurs à décrire l'émergence de cette promesse dans l'esprit des acteurs au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cette promesse, dans son acception la plus générale, peut se résumer très simplement ainsi. Tu peux quelque chose à l'organisation du monde qui est le tien. C'est en cela qu'il est permis de dire qu'elle est promesse de l'autonomie. Mais tu peux quoi, au juste, et comment? C'est là que commence le problème. On peut dire, en vue cavalière, que cette promesse va revêtir trois figures successives. La première est celle de l'organisation du monde humain social selon le droit. C'est celle qui va présider aux révolutions des droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à ce que nous avons caractérisé comme le moment politique des droits de l'homme. Traduction pratique, tu peux participer à la confection des lois qui président au fonctionnement du corps politique auquel tu appartiens. Autrement dit, tes droits te donnent le droit de participer en tant que citoyen à l'élaboration des lois destinées à transcrire dans l'organisation effective de la communauté politique ces droits dont tous bénéficient. Je passe sur les vicissitudes de cette première tentative. Là-dessus, irruption d'une dimension à laquelle on n'avait pas prêté suffisamment d'attention, en la réduisant à une simple concrétisation progressive de la raison dans l'existence collective. La dimension historique. Cette dimension se révèle autrement riche et compliquée quand elle prend l'aspect de la révolution industrielle et du capitalisme, des forces d'entraînement qui bouleversent la vie collective en son entier, comme il est devenu clair aux yeux d'à peu près tous au milieu du XIXe siècle. Des forces qui rendent dérisoire la promesse démocratique première manière, au fur et à mesure que ces forces s'affirment, de telle sorte qu'elles vont obliger à redéfinir la promesse démocratique. La grande nouveauté qui s'introduit avec l'élément historique, c'est la dimension nécessairement cognitive du processus démocratique. Dimension qui ne va pas constituer la moindre de ces difficultés. Ce n'est pas le tout, en effet, de participer de près ou de loin à la délibération législative, encore faut-il comprendre ce qui se passe. Car les forces qui animent cette dynamique sont obscures. Ces résultats sont mystérieux, quelquefois mal saisissables. Elles appellent le déchiffrement. Leur retombée de toute nature exige un considérable travail de connaissance si l'on veut décider en connaissance de cause collectivement. C'est de la sorte que la politique démocratique devient idéologique au sens rigoureux du terme, tel que nous avons essayé de l'approcher. La politique démocratique en vient à s'organiser autour de doctrines ou de visions du devenir plus ou moins formalisées et autour de la conception des conséquences politiques attirées de ce mouvement du devenir. Dans quel sens s'orienter par rapport à ce devenir? Je passe sur les changements majeurs qui s'ensuivent dans la vie publique, le développement d'un état d'administration pour piloter ce mouvement, la construction de partis politiques pour organiser la participation des citoyens et pour encadrer l'action des forces sociales de masse. La promesse démocratique, dans ce cadre, devient celle de gouverner l'histoire au moyen du savoir de cette histoire. Savoir que les idéologies ont précisément pour rôle de fournir. C'est la raison pour laquelle cette promesse démocratique va prendre le visage dominant au moins sur le plan idéologique, du socialisme, dans une acception très large, comme la doctrine la plus systématisée, la plus cohérente de l'histoire et de son aboutissement. La promesse démocratique va être dominée par la perspective d'une fin de l'histoire, en fonction d'une logique que nous avons déjà dégagée, mais sur laquelle il importe toujours de revenir. L'advenue de cette conscience de l'histoire et de la science qu'elle autorise fait de l'époque actuelle l'époque décisive où va se jouer l'advenue de la maîtrise rationnelle de la société de l'histoire. Tel est le vrai nom de la promesse démocratique par rapport aux abstractions fumeuses d'une citoyenneté sans prise sur les mécanismes concrets de la vie collective. Cette promesse change de nature à l'heure où la communauté humaine paraît sur le point de trouver son assiette définitive et juste, en même temps que les moyens d'un gouvernement authentiquement raisonné. Je prends là le fil central de cette promesse démocratique dont les versions politiques pratiques sont multiples, avec ces versions radicales, modérées, mais qui toutes gravitent autour du même axe. La révolution silencieuse sous le coup de laquelle nous nous trouvons dans le sillage du tournant des années 1970, la radicalisation structurelle de la modernité qui s'en est suivie, ont bouleversé de nouveau les termes de la promesse démocratique. Elles ont disqualifié, pour commencer, cette figure du gouvernement de l'histoire. Ne serait-ce que dans les prémices, il n'y a aucune fin de ce genre concevable, et qui plus est, la poursuite d'un tel but ne peut conduire qu'à la tyrannie. Mais, non contente de rejeter dans le passé ce qui a fait pour un bon siècle figure de promesse démocratique, cette révolution et la radicalisation de la modernité qui s'en est suivie ont fait surgir une troisième figure de la promesse démocratique, entièrement différente des précédentes. Une figure de la promesse démocratique qui donne un autre contenu à l'idée d'autonomie, telle qu'elle est intuitivement perçue par les acteurs au sein de nos sociétés. La promesse démocratique est redevenue promesse de la jouissance complète de ses droits personnels, retour en ce sens au point de départ, mais différence avec la première figure que nous identifions tout à l'heure, pas du tout sous le signe de la participation politique, comme dans le premier cas de figure, mais au contraire, sous le signe d'une indépendance individuelle déconnectée de l'obligation collective, dans le cadre d'une démocratie du privé. Démocratie du privé dont la promesse est celle de faire valoir ses droits et de poursuivre ses intérêts aussi librement que possible, dans le cadre d'une organisation collective à laquelle on ne peut, sur le fond, rien, puisqu'elle est essentiellement automatique, mais un automatisme bienfaisant, en plus d'être rationnel, puisqu'il a pour but et pour effet de neutraliser la pression collective sur les individus et de permettre l'expansion maximale des indépendances personnelles, de l'égale liberté de chacun. La philosophie dominante dans laquelle baigne notre conjoncture actuelle consiste dans la conviction d'avoir trouvé la formule véritable de l'autonomie. L'autonomie, la véritable, la voilà, elle est enfin atteinte sous les traits de cette société qui se propose comme dessein de s'effacer comme société derrière la liberté de ses membres. Le message tacitement adressé à chacun dans ces conditions revient à quelque chose du genre « Tire ton épingle du jeu et ne t'occupe pas du reste. Hors de ton petit secteur de spécialité ou d'activité. Il n'y a rien à comprendre et à maîtriser de ce côté-là, puisque ça marche très bien tout seul. Sauf, naturellement, entretien et correction à la marge. Et que, qui plus est, cela représente la formule la meilleure qui se puisse imaginer de la vie en société, puisqu'elle donne toute leur place aux existences personnelles par rapport aux anciennes aliénations collectives. Il n'y a aucune fin de l'histoire à rechercher. Elle est advenue, elle est réalisée, avec cet avantage que la forme qu'elle revêt est compatible avec la perspective d'un élargissement continu des droits et des libertés de chacun. Sans parler, corréla intéressant, de l'accroissement indéfini de la richesse de tous et de chacun. L'objet de la politique, dans ces conditions, est sans plus de mystère, à la fois prosaïque et encourageant, il se résume dans l'optimisation des conditions qui permettent cet accroissement des libertés et de la richesse. Ces quelques notations laisse beaucoup de choses de côté. Leur but n'est évidemment pas d'épuiser le sujet, mais de faire ressortir à quel point nous sommes dans une configuration nouvelle. Une configuration dotée d'une grande cohérence et susceptible de durer. Car elle alimente et elle entretient chez ses acteurs une conviction à son propre sujet. Celle d'être une configuration d'après l'histoire, précisément appuyée qu'elle est sur la connaissance positive de ses rouages. Le droit, d'un côté, avec ses dérivés, et de l'autre côté, le complexe science, technique, économie. Certes, ces connaissances sont susceptibles d'un approfondissement indéfini, mais un approfondissement interne ne remettant nullement en question les prémices sur lesquelles elles reposent et leur domaine d'application. Elles sont sûres de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont à être. La société de la connaissance a cette force qu'elle communique à ses acteurs l'assurance qu'ils savent, dans le principe, tout ce qu'il y a à connaître s'agissant du fonctionnement social. Et qu'ils n'ont qu'à s'en remettre, chacun dans leur petit coin, au mécanisme global automatisé. À ce titre, il est permis de dire que la société de la connaissance est réflexive. Elle est porteuse d'un message sur elle-même. Elle dit à ses acteurs que les savoirs qui l'agencent et qui font sa spécificité, des savoirs dont ses acteurs sont les agents, chacun à leur niveau, ces savoirs sont autosuffisants et excluent par principe toute réflexion d'ensemble sur l'univers humain social qu'ils contribuent à créer. Ce qui veut dire, en un mot, que cette réflexivité tacite incorporée dans le mécanisme de la société de la connaissance, est anti-réflexive au sens plein du terme de réflexivité. Car réflexivité, dans la rigueur du concept, désigne cette capacité à rendre compte de soi-même du dehors, au-delà de ce fonctionnement interne, ce qui implique en l'occurrence de situer sa société, la nôtre, dans l'histoire des formes de société et de se mettre en mesure de ce fait d'envisager d'autres organisations possibles, dont par exemple une organisation à base de maîtrise réfléchie du mécanisme global de l'existence collective. Cette anti-réflexivité a sa traduction directe dans le climat collectif. autant l'époque de l'aspiration au gouvernement de l'histoire avait été une période de mobilisation intellectuelle, appelant les acteurs au déchiffrement de l'inconnu de leur monde et d'eux-mêmes. Et cela d'autant plus remarquablement que c'était avec très peu de moyens. Autant la société de la connaissance, avec un niveau d'information et d'éducation incomparable, est une société de l'incuriosité intellectuelle, au nom même de la connaissance. En cas de problème, il y a toujours un spécialiste pour ça. L'idée qu'il y a une connaissance qui ne comporte pas à proprement parler de spécialiste, à savoir la compréhension du monde commun dont ces spécialités ne sont que des rouages, cette idée d'autocompréhension en vue de l'autogouvernement ne fait plus partie du paysage. Ce n'est pas que la critique ne soit absente du paysage, elle y est omniprésente au contraire, comme il se doit dans un monde d'individus soucieux de marquer leur indépendance. Mais en quoi consiste cette critique, vue de près ? En une dénonciation inlassable, et d'ailleurs justifiée, au nom du droit, des insuffisances criantes de la réalisation du droit. Une protestation morale, en fait, qui ne conduit vers aucune intelligibilité de l'état de choses existant et qui reconduit les prémices du monde dont elle dénonce les carences ou les dévoiements. La protestation critique fait partie du fonctionnement interne de cette société qui ne veut pas se savoir elle-même. Elle a d'ailleurs ses spécialistes reconnus à l'instar des autres et elle alimente la dynamique générale. Le processus politique pouvant d'ailleurs être compris, c'est une version admissible du processus démocratique comme l'intégration progressive de cette critique ou de ces critiques ponctuelles qui permettent précisément le perfectionnement incrémental, comme on dit, du système global. C'est dire que nous avons affaire à très forte partie avec ce dispositif organisé par la connaissance pour exclure la perspective de son propre dépassement avec la recherche de sa propre intelligibilité. Et pourtant, il est difficile de croire que cette version de la promesse démocratique, si puissante soit-elle, soit la dernière et la bonne. Il y a même toutes les raisons de penser le contraire. La vérité est qu'elle est la formule de la crise démocratique actuelle, dans ce qu'elle a d'infiniment compliqué, car en même temps, comment être contre la consécration des droits individuels et des libertés personnelles? Comment être contre aussi bien un fonctionnement collectif obéissant à des savoirs rationnels? Néanmoins, force est de constater que cette formule laisse échapper quelque chose d'essentiel, qu'elle est source de dysfonctionnement majeur, et qu'elle tourne le dos, pour finir, à cette autonomie dont elle se veut la traduction concrète. L'autonomie, ce ne peut être l'indépendance de l'individu dans le cadre d'un automatisme collectif sur lequel il n'a aucune prise. Surtout quand cet automatisme aveugle est de surcroît suicidaire. Ce que nous avons à démonter, c'est l'effet d'optique qui accrédite et alimente ce mode de fonctionnement. Il sécrète une méconnaissance sur ses conditions et sa nature qu'il s'agit de percer à jour. La bonne démarche pour cela, me semble-t-il, c'est d'en reprendre les éléments un à un, en tâchant d'identifier les illusions attachées à chacun de ces éléments en leur état actuel. En quoi, donc, la décantation du politique dans sa fonction instituante et médiatrice est-elle intrinsèquement trompeuse? En quoi la décantation du principe de légitimité moderne égare-t-elle sur ce qu'est et sur ce que doit être le droit? Le droit, dit-il, ce que doit être le droit. Il en est convaincu, mais est-ce pour autant aussi recevable qu'on pourrait le penser en première vue? En quoi la décantation structurelle de l'organisation collective en vue de la production de l'avenir joue-t-elle comme un écran vis-à-vis de son objet? Voilà ce qu'il s'agit de clarifier, afin de saisir la manière dont ces différentes illusions d'optique s'emboîtent pour former un système de méconnaissance. Système qui est à la source de notre si étrange crise de la démocratie. l'illusion inhérente à la décantation de la fonction instituante et médiatrice du politique a ceci de remarquable qu'elle tend à faire croire à l'inutilité du politique. Elle le rend invisible, littéralement. Cela au moment où il remplit un rôle inégalé dans la constitution de l'espace collectif. Et dans la médiation de la collectivité avec elle-même et avec les autres communautés politiques. Juste une petite illustration pour donner corps à cette perspective. Qui peut paraître très abstraite et qui pourtant règle très concrètement les rapports de chacune des communautés politiques avec le monde extérieur. Un ressortissant français est pris en otage à l'autre bout du monde. Eh bien, il est tout naturellement entendu. Il est tout naturellement pris pour allant de soi que la tâche du gouvernement est de multiplier les efforts pour le tirer de là. Je peux vous garantir que il n'en allait pas de même il y a seulement un siècle. Eh oui, car la fonction du politique réside dans cette médiation très concrète qui autorise en fait la libre circulation des citoyens de communauté politique à communauté politique dans le cadre d'un monde globalisé. La chose remarquable en effet, encore une fois, est que la manière infrastructurelle et fonctionnelle dont est rempli ce rôle médiateur en masque l'existence. Elle sécrète l'illusion d'une société naturelle qui tient ensemble toute seule, sans aucun besoin d'un travail pour la produire. Alors que jamais ce travail n'a revêtu des proportions comparables. Elle suscite l'illusion de l'immédiateté, l'illusion par excellence de nos sociétés à leur propre sujet. Une médiation réussie ne se voit pas. Qu'il s'agisse de la capacité de la collectivité d'agir sur elle-même ou qu'il s'agisse des rapports de ses membres, de ses composantes, avec le monde extérieur. D'où l'illusion double que nous allons vers un monde mondialisé, certes pas encore complètement advenu, mais en bonne voie de réalisation, qui constituerait une société mondiale naturelle, qui marcherait toute seule, sans frontières, ni sans plus de communauté politique identifiée, ni d'état-nation pour limiter, encadrer ou contraindre les actions des individus. Cela alors que c'est le travail gigantesque des États-nations qui permet à ce monde mondialisé d'exister et de fonctionner. Comme on le voit très bien, là où ces États-nations sont en faillite. C'est ce travail instituant qui permet à leurs acteurs de s'inscrire au-dedans dans un espace collectif qui leur est lisible et accessible, et sur lequel ils ont une prise. Comme c'est ce travail instituant qui leur permet de bénéficier d'une ouverture qui n'est possible que sur fond de la relative clôture qu'exige le gouvernement de l'ouverture. Cette dissolution des cadres et des structures politiques, c'est l'horizon. En attendant, il faut bien vivre et s'accommoder des vestiges qui subsistent de ces cadres politiques. L'illusion de l'effacement du politique prend ici le visage de sa réduction à la politique, c'est-à-dire à la représentation des individus. Mais une représentation des individus ne peut, par nature, que provoquer leur frustration, puisque nécessairement elle généralise, elle globalise, ils n'y retrouvent pas et ne peuvent pas y retrouver leur singularité. D'où l'écueil bien connu sur lequel bute la recherche désespérée de proximité de notre personnel politique, invariablement confronté à des citoyens dont la question est « Et moi dans tout ça ?» Des individus dans le gouvernement représentatif tel qu'il est conçu actuellement ne peuvent que se sentir mal représentés par des gens étrangers à leurs préoccupations. La représentation est contestée et ne peut que l'être au profit d'une aspiration récurrente à la démocratie directe où les individus feraient leurs affaires eux-mêmes. En tout cas, à défaut de déboucher en pratique sur des résultats très d'ampleur significative, cette contestation larvée du pouvoir représentatif conduit à vouloir limiter au maximum ses attributions et ses prérogatives au profit d'une société civile aux marges de manœuvre aussi étendues que possible. Où vous voyez au passage comment une aspiration radicale à la démocratie directe peut faire le meilleur ménage avec l'aspiration strictement libérale à une limitation du pouvoir représentatif. Tout notre espace politique est tissé d'alliances apparemment contre nature, mais parfaitement logiques en réalité, qui tiennent à ces nouvelles conditions du fonctionnement collectif. Cette méconnaissance du rôle fonctionnel décisif du politique s'ajuste exactement aux réquisitions de l'universalité du droit. Elle est même le support sans lequel ce règne du droit serait inconcevable. L'infrastructure politique est ce qui autorise le déploiement effectif du principe de légitimité moderne, ce principe selon lequel il n'y a en droit que des individus également libres. aussi bien cette invisibilité du rôle du politique s'ajuste-t-elle exactement aux exigences de l'économie? Domaine d'une action obéissant à des règles d'efficacité rationnelle, sinon universelle à proprement parler, en tout cas indépendante de leur contexte localisé, une action mobilisant des moyens techniques semblablement partout admis et exprimant son efficacité dans un langage monétaire partout reçu. La métamorphose du politique qui le rend invisible, ayant pour conséquence structurelle l'autonomisation de la société civile, l'économie, dans sa quasi-universalité de règles, est l'expression extrême de cette indépendance des sociétés civiles sous forme d'une extériorisation du secteur économique par rapport aux communautés politiques et sa constitution tendancielle en un secteur mondial unifié. C'est le sens de la règle de libre-échange devenue l'épine dorsale du fonctionnement capitaliste d'aujourd'hui. Où l'on saisit au passage un aspect au moins du lien intime qui unit le règne du droit et le règne de l'économie. Ils sont portés l'un et l'autre par une même dynamique universaliste qui tend à les extraire de la particularité des communautés politiques. Particularité, c'est le point sur lequel nous aurons longuement à revenir, particularité qui n'en représente pas moins la base sur laquelle ces universalismes peuvent se développer et s'affirmer, ce qu'ils tendent à méconnaître. Voilà l'une des contradictions les plus fortes du monde où nous nous trouvons. Car en effet, notre principe de légitimité moderne, le droit universel des individus pour faire court, ce principe de légitimité sécrète sa méconnaissance propre. Il se pose comme autosuffisant. Abstraction faite du cadre dans lequel il a pu en venir à se formuler, car vous n'ignorez pas, il n'a pas toujours existé, et cadre dans lequel son exercice est susceptible de devenir effectif. Il est anti-réflexif en ceci qu'il ne reconduit pas de lui-même à la question des conditions qui lui ont permis de naître, comme s'il avait toujours et partout été admis. Pas plus qu'il ne reconduit à la question des conditions qui rendent son application et sa concrétisation possible. Comme s'il pouvait se matérialiser n'importe où, par sa seule force d'évidence. Cette ignorance de ses propres conditions de possibilité, ignorance qui est en même temps un savoir normatif très puissant sur ce que doivent être les liens et les rapports sociaux, cette ignorance en rejoint une autre qui ne provient pas du droit directement, celle-là, mais qui relève de la formule plus générale de la société des individus, base sociale concrète de notre second moment des droits de l'homme. Je me borne à en rappeler le principe. Société des individus, la société qui se pose en tant que société, comme composée exclusivement d'individus. Cette formule a pour propriété, là encore, très remarquable, de se rendre invisible comme société aux yeux de ses membres. L'individu abstrait de droit est poussé, en quelque sorte, par le mécanisme même qui l'établit dans ses droits, à ignorer ce mécanisme, à méconnaître les conditions dans lesquelles il est concrètement fabriqué, comme individu. Formé comme individu, éduqué comme individu, protégé pour demeurer un individu. Un état qu'il tente à percevoir comme naturel ou comme donné. L'individu de droit se voit volontiers comme désappartenant. Lui dont l'existence est tissée d'appartenance jusque dans la moindre fibre de son être. Il est temps, de ce point de vue, de réécrire Robinson Crusoé. À l'envers. Il ne s'agirait plus du récit héroïque de l'individu seul sur son île déserte, qui porte à tel point sa société en lui, qu'il est capable d'en réinventer les acquis et les rouages par ses simples moyens. Notre Robinson Crusoé à nous serait le récit tragique de la découverte d'une impuissance mortelle, de l'enfoncement dans la déréliction d'un individu que l'absence de sa société voue au néant. Nous avons vu comment l'illusion engendrée par la métamorphose du politique qui le réduit à la politique fait parfaitement système avec l'illusion qui s'attache au droit et à la société des individus. Il nous reste maintenant, pour finir, à voir comment ce système intègre l'illusion sécrétée par la radicalisation de l'orientation historique. Illusion qui tend à réduire l'invention de l'avenir au dynamisme spontané de l'économie. Sur fond de neutralisation du passé et du présent. En repoussant ainsi dans l'ombre la dimension proprement historique de ce travail des sociétés. On n'a pas de peine à discerner de manière générale comment l'économie bénéficie du cadre créé par les transformations du politique et du droit. J'y ai fait allusion tout à l'heure, rapidement. L'ouverture globale des communautés politiques les unes sur les autres et l'autonomisation des sociétés civiles d'un côté, côté politique, l'individualisation juridique des sociétés, de l'autre côté, crée un appel d'air dans lequel ce règne de l'économie peut s'engouffrer. Je souligne au passage le problème d'interprétation posé ici. De vieilles habitudes de pensée solidement ancrées depuis un bon siècle soufflent une explication simple à ce déchaînement des forces productives, comme on eût dit dans d'autres temps. Une explication tout simplement par le déterminisme économique. Aucun mystère là-dedans. C'est l'expansion du capitalisme qui se poursuit à une échelle démultipliée en renforçant sa domination. Une domination tellement puissante dans cette nouvelle configuration qu'elle se soumet la marge des nations et le statut des acteurs pour les plier à ses fins. J'ajoute au passage que comme cette expansion ne fait signe désormais dans cette configuration vers aucune révolution, que le paysage que cela dessine est pour le moins inquiétant. Où en sera-t-on à la prochaine étape? Contre cette interprétation enracinée, je soutiens à l'opposé, et l'enjeu est d'importance, vous me l'accorderez, que ce nouvel élan du capitalisme en lui-même, indiscutable, est un effet et non une cause. Je soutiens en tout cas que ni les transformations du politique que nous pouvons observer, ni l'individualisation juridique ne sont dictés par la pression du système économique et les besoins du capitalisme. Ils répondent à leur logique propre, une logique à inscrire dans une très longue durée du déploiement de la structuration autonome. ce qui, évidemment, n'empêche pas, même s'ils répondent à leur logique propre, qu'elles ouvrent ensuite de nouveaux espaces à l'action économique par différents canaux. Encore ne faut-il pas réduire cette dynamique à la simple reproduction élargie du capital. Je parle de l'action économique, comme nous l'avons vu et comme on ne saurait trop y insister. Ce qui est exact, c'est que ces transformations, du côté du politique, du côté du droit, ont ouvert la porte à une sorte de parachèvement de la constitution de l'économie en un système. Un système global, un système séparé de la vie des sociétés et un système en mesure de proposer une grille de lecture générale de l'activité collective. L'économie tendait vers cette formation en un système depuis le départ. Comme les premiers analystes de ces mécanismes l'ont détecté dès la fin du 18e, Smith, Ricardo, ils ont déjà l'intuition de cette systématisation. Mais elle restait très loin du compte. Le désencastrement de l'économie que décrit Polanyi dans La Grande Transformation, à propos de l'Angleterre, de la première révolution industrielle, reste très loin du compte. Encore une fois, la dynamique est là, mais la réalisation, au regard de ce que nous pouvons connaître aujourd'hui, est bien peu avancée. D'abord, parce que, en dépit de l'amorce du développement d'un marché mondial, l'économie, jusque dans l'Angleterre libre-échangiste de l'abolition des Corn Laws de 1846, l'économie demeurait très fortement enserrée dans des espaces nationaux. Ensuite, parce que une très grande partie des rapports sociaux continuait d'obéir à des normes qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'individualisme contractuel et l'échange marchand. Pour en rester au cadre anglais, la culture aristocratique de la déférence qui imprime toute la société anglaise demeure puissante, tout à fait indépendamment du fait qu'il s'agit de la puissance économique mondiale par excellence. Enfin, parce que le modèle gestionnaire, le mode de raisonnement à base du calcul de l'efficacité économique de n'importe quelle action, était très loin d'avoir gagné toutes les sphères de la vie collective. Il n'était d'ailleurs même pas encore vraiment né. Il ne va véritablement émerger qu'à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Cette fois, en revanche, nous y sommes. La globalisation, dont le substrat est politique, encore une fois, a permis, avec les autres facteurs que nous avons pointés, a permis l'émergence d'une économie pure, pour ainsi dire. Ce qui me fait aussi parler d'un capitalisme généralisé. Une économie pure. Qu'est-ce à dire ? Une économie qui se dégage en tendance des espaces nationaux pour faire valoir partout et jusqu'au bout ses principes dans des sociétés, pour ce qui est du monde occidental, dont la texture et la consistance n'opposent plus de résistance à ces principes. Parce qu'elles sont culturellement détraditionnalisées de part en part et qu'elles sont juridiquement individualisées. De telle sorte que le raisonnement marchand et le raisonnement technique appliqué à l'ensemble des activités sociales ne leur pose aucun problème. Dans un tel cadre, et c'est la nouveauté de notre situation, la dynamique juridico-technico-marchande peut se déployer sans entrave. Et ce qui serait à décrire plus précisément, c'est la manière dont chacun de ces trois piliers, le juridique, le technique, le marchand, s'alimente l'un l'autre dans leur relative indépendance l'un par rapport à l'autre. Je laisse de côté un développement important, pourtant, sur le plan de conséquences de cette situation, qui sont les conséquences politiques et tout simplement la disparition du, surprenante à première vue, de la contestation de l'économie et du mécanisme capitaliste dans cette situation, au travers, à la faveur de cette dénationalisation, cette fois consommée, des économies en tendance. Mais ça nous emmènerait très loin. Nous pourrons y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Je voudrais, en revanche, insister pour faire bien comprendre la manière dont les choses se passent sur le mécanisme de cette dynamique du capitalisme généralisé. Elle consiste, si l'on cherche à en ramasser le principe dans une observation centrale, dans une relecture que l'on peut dire réflexive de l'activité sociale en général. On peut la dire réflexive puisqu'elle consiste dans une reconsidération au second degré de n'importe quel fonctionnement collectif qui peut toucher aussi bien les rapports de couple que le fonctionnement d'une collectivité politique ou d'une entreprise ou d'une administration. Reconsidération du fonctionnement collectif à la lumière de connaissances positives en matière d'organisation, de coûts, de comportement des acteurs, afin d'identifier des moyens d'optimiser ce fonctionnement, que ce soit, encore une fois, en termes d'organisation, que ce soit en termes de rapport entre les résultats et les moyens engagés, ou qu'il s'agisse de la satisfaction du consommateur, de l'usager, toutes sortes d'angles possibles. Et cela va jusqu'à l'exploitation des ressources personnelles, dont une gestion rationnelle représente un horizon tout à fait légitime. Cela passe pour une partie importante, sous l'angle plus spécialement économique, par la recherche de ce que les techniciens appellent des gisements de valeur potentielle, entendons l'offre de nouveaux services ou de nouveaux biens ou de nouvelles techniques ou de nouveaux processus organisationnels susceptibles de marchandisation. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'innovation, dont il faut bien se rendre compte qu'elle ne consiste pas seulement dans la production de nouveaux objets, de nouveaux services, dans l'amélioration technique des objets, mais dans la recherche systématique dans l'activité sociale de ce qui peut devenir l'objet d'un échange marchand. Et tout peut devenir objet d'un échange marchand. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un expert international reconnu, comme on dit, expliquer que la réforme des systèmes éducatifs était en fait, que dans laquelle tout le monde patauge sans trouver d'issue, était en fait un faux problème. Il suffisait d'y penser, en effet. Il faut faire de l'éducation un objet d'échange marchand. Un client qui sait ce qu'il veut, ce qu'il demande, en échange d'une rétribution calculée de manière à assurer à la fois un juste service, une juste rémunération, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, les gens, sachant ce qu'ils demandent, ayant une concurrence de moyens à leur disposition, eh bien, tout fonctionnerait parfaitement. Et le niveau monterait très vite. Il suffisait d'y penser. C'est ça l'économie de l'innovation. C'est la possibilité, la recherche de solutions d'optimisation marchande dans l'ensemble des activités, avec tout ce que ça implique en termes de calcul de l'efficacité, d'évaluation, d'indicateurs, etc. Vous voyez bien comment, par nature, cette économie de l'innovation est une économie libérale, décentralisée. Elle est une économie d'entrepreneur, puisqu'il faut, pour répondre à cette exigence d'économicisation, des esprits inventifs, originaux, qui savent à la fois identifier les besoins, les objets, et monter les moyens qui permettent leur exploitation économique. Une économie d'entrepreneurs sous l'arbitrage et la coordination du marché, à partir d'une loi élémentaire qui est la loi du retour sur investissement. Parce que le capitalisme, ce n'est que cela. Ce mécanisme qui fait que, disposant d'un capital, vous l'investissez, de préférence de manière judicieuse, mais toujours avec un risque, en vue d'un accroissement de ce capital au sortir de l'investissement que vous avez réalisé. Mais ce qu'il faut saisir ici, c'est combien la force de l'ensemble de ce dispositif est de constituer un mode de fonctionnement automatique, dont l'ultime ressort légitime, nous l'avons vu, au-delà de l'accroissement des richesses, est d'opérer une artificialisation symbolique du monde humain, qui ne dit pas son nom, mais qui n'en est pas moins opératoire pour lui permettre de se reconnaître comme humain. Si l'on veut saisir la légitimité diffuse, mais tellement puissante qu'elle n'a pratiquement pas d'ennemis dans le monde où nous sommes, si l'on veut saisir cette légitimité, ce sont là les points à considérer. L'accroissement de richesse que ce mode de fonctionnement est susceptible de produire, mais aussi ces deux autres choses qui restent dans l'ombre. Premièrement, la force d'un tel mode de fonctionnement automatique qui incarne un collectif sans contrainte personnelle. C'est cela la force des marchés. Pas de pouvoir personnifié, pas d'arbitre incarné, pas de domination explicite, si rude que soit la contrainte et la sanction éventuelle du marché. Le marché neutralise les dominations à l'ancienne. Les sociétés tenaient par cette contrainte symboliquement incarnée d'une idée passant par une domination politique, plus rien de tel, une coordination horizontale qui fonctionne sans projet, sans idée, sans volonté. Elle marche toute seule et qui plus est, elle produit au final un bénéfice global. Alors, sur lequel ensuite on discute pour répartir les résultats. Mais on discute de plus en plus âprement sur la répartition des résultats quand la période n'est pas porteuse, mais ça n'implique pas la remise en question du mécanisme lui-même. Voilà pour le premier facteur de légitimation de ce mode de fonctionnement. Et puis, en deuxième lieu, il faut considérer l'effet de symbolisation de cette construction du technocosme humain, celui qui est aujourd'hui à la base de la dynamique extraordinaire de l'urbanisation du monde, in fine, sans doute la dimension la plus inconsciente, la plus puissante qui nous fait nous en remettre à l'économie. À considérer maintenant les effets de méconnaissance qui accompagnent cette consécration d'une économie pure. Méconnaissance d'abord de ce qui soutient cette dynamique. Elle n'a rien de naturel, ni de spontané, elle n'est possible que sur la base d'une infrastructure politique hautement perfectionnée. Et on le voit encore une fois là où elle disparaît. Et nous arrivons d'ailleurs à une intéressante contradiction avec le refus des détenteurs du capital de financer, qui est le phénomène d'aujourd'hui, de financer ce qui permet au capitalisme de fonctionner. C'est une donnée qui pourrait avoir assez vite des effets destructeurs considérables. Et on verra si le capitalisme est aussi intelligent que ses adversaires le croient. Les tenants du capitalisme sont très conscients de ses limites, mais ses ennemis, en revanche, le surestiment tragiquement, en général. C'est assez original comme situation. Méconnaissance, ensuite, de ce que cette dynamique produit réellement. Elle engendre la bulle présentiste où nous sommes enfermés, sans passé significatif par rapport auquel se situer, et sans avenir identifiable dans lequel se projeter. Le résultat en est une incompréhension de ce que ce travail collectif produit effectivement et une incapacité de définir un ordre collectif d'ensemble. Des choses, on en conviendra, assez peu compatibles avec la perspective de l'autonomie qui est théoriquement l'âme de ce monde où le fonctionnement à la connaissance a remplacé l'idée de soi. Méconnaissance, enfin, de ses limites. Cela se joue à deux niveaux. Dans les faits, le règne de l'abstraction et de la concrétisation de l'abstraction a pour effet de faire ressortir le concret qui n'y entre pas et auquel l'abstraction ne saurait se substituer. L'exemple le plus simple en est dans les retombées de l'individualisation juridique. C'est un point que nous avions creusé l'année passée. L'individualisation juridique, c'est-à-dire l'abstraction de soi, qui fait de vous un individu interchangeable, également libre avec n'importe quel autre, met en lumière, aux yeux de chacun et aux yeux des autres, une singularité irremplaçable. C'est dans le monde des individus interchangeables que le sens de la singularité des personnes prend tout son sens. Et on peut bien montrer comment les deux se sont affirmés de concert depuis deux siècles. Nous sommes sans cesse tiraillés entre ces deux dimensions. Prenons un exemple tout à fait caractéristique dans la discussion d'aujourd'hui, la faveur de l'idée de tirage au sort en politique pour remédier à la défaillance des systèmes représentatifs, l'idée entièrement conforme au principe de l'individualisme, de l'individu de droit, est de prendre une procédure de tirage au sort. pour toutes les fonctions de responsabilité publique. Encore une fois, c'est dans la logique démocratique radicale. Et donc, spontanément, cette idée rencontre la faveur. Sauf que elle heurte l'autre face de la même idée démocratique de l'individu, c'est que nous savons très bien, tous tant que nous sommes chacun très différents. Et en fait, on vote non pas sur le fait d'être tous pareils, mais sur le fait qu'il y en a des différents. Et que certaines de ces différences ont un rapport avec les aptitudes que l'on attendrait raisonnablement de gouvernants ou de responsables publics qui ont à exercer un certain type de position de commandement. Donc, les deux faces sont en concurrence. Et la vraie logique de la scène politique aujourd'hui, ce n'est pas l'évolution vers l'impersonnalité, l'anonymat, l'interchangeabilité, donc le tirage au sort possible, mais au contraire, la starisation, la vedettisation, la personnalisation à outrance des fonctions gouvernantes. Voilà une belle illustration de ce double face de l'individu. Le règne de l'individu de droit met en lumière ce qui, dans le fonctionnement collectif, échappe à l'individu de droit. On peut dire quelque chose d'analogue à propos de l'abstraction marchande, où c'est encore beaucoup plus facile à lire. Elle fait ressortir ce que l'argent ne saurait acheter, ou mal acheter. Nous avons de ce point de vue un exemple tout à fait extraordinaire qui a été bien étudié par Lucien Carpic dans un livre qui s'appelle « L'économie des singularités ». Nous avons vu naître littéralement un nouveau secteur économique. Un nouveau secteur économique qui porte sur des biens singuliers, justement, qui n'ont pas à proprement parler de prix. Et donc, du coup, objets d'art, vins de très grands crus, objets de collection, rareté extrême, ce qui est passionnant à suivre, c'est la volonté dans ce secteur de faire entrer dans un circuit d'une valeur évaluable, ce qui ne peut être évalué. D'où un décollage inflationniste dans un contexte où, comme disent les économistes, les liquidités sont abondantes. La seule manière de donner un prix à ce qui n'a pas de prix, c'est de surévaluer considérablement ce prix, jusqu'à des hauteurs qui n'ont pas de limite. Même analyse possible à propos de l'abstraction technique, dont l'effet est de faire ressortir par contraste ce qui, du travail humain, n'entre pas dans l'objectivation technique et qui se traduit par une espèce de nostalgie de la nature dont les expressions sont innombrables. Mais la méconnaissance des limites de ce mode de fonctionnement se joue aussi et surtout au niveau du processus global d'artificialisation et d'extériorisation du technocosme humain par rapport à la nature, qui est proprement suicidaire, je n'y reviens pas, la conscience en existe et s'en répand, mais le fait frappant est l'extraordinaire difficulté d'imaginer des solutions autrement que dans le cadre de la dynamique qui alimente cette artificialisation et cette extériorisation. C'est là, justement, qu'on voit ressortir la limite absolue de la connaissance au nom de laquelle opère cette réflexivité opérationnelle, mais intellectuellement anti-réflexive, c'est-à-dire incapable de revenir sur elle-même et de se questionner pour ce qu'elle représente. C'est précisément autour de cette réflexivité véritable que devrait graviter une autonomie effective parce que substantielle. Nous avons fait ainsi un inventaire, sinon complet, en tout cas méthodique, qui font de la société, un inventaire méthodique des foyers qui font de cette société de l'autonomie structurelle une société de la méconnaissance. Cette méconnaissance a une expression idéologique sur laquelle nous reviendrons. Une expression idéologique en bonne et due forme, sous les traits de l'idéologie néolibérale, dont on a, à partir de cet inventaire, les moyens de donner une description compréhensive, non pas à partir des auteurs qui la développent, chacun à leur manière, tant de néolibéralisme que d'auteurs néolibéraux, mais une description compréhensive, c'est une description qu'il a saisie dans son adéquation à la société où elle tend à s'imposer et à s'accréditer. On voit bien comment l'idéologie néolibérale articule dans ses différentes versions une vision cohérente de la politique, du droit et de l'histoire. On ne peut pas comprendre son enracinement sans identifier ses ancrages qui la rendent incomparablement crédible. On pourrait bien entendu détailler bien davantage ce système de la méconnaissance dans ses manifestations. Mais ce qui m'importait, c'était de mettre en lumière son existence qui fait de la radicalisation de la modernité une configuration de crise et de crise de la démocratie. Le paradoxe de l'autonomie structurelle est de produire un monde sur lequel ces acteurs, si libres de leurs pensées et de leurs actes qu'ils soient, n'ont pas véritablement de prise. Un monde en forme de théâtre d'ombre dont la nature, la raison d'être et le mode de fonctionnement échappent à ceux qui le peuplent, ils le sentent, et il s'ensuit un mécanisme d'auto-renforcement de la méconnaissance par le repli qu'il aurait offert sur leur indépendance individuelle qui alimente la déprise collective. On pourrait tirer de ce constat une conclusion fort pessimiste. De la structuration hétéronome à la structuration autonome, nous n'avons fait qu'échanger une méconnaissance contre une autre, un type de méconnaissance contre un autre. La méconnaissance religieuse, il faut bien l'appeler telle, qui reporte dans l'au-delà le fondement de l'ordre humain social établi, cette méconnaissance religieuse a cédé la place à une autre méconnaissance, tout à fait immanente celle-là. Elle est même rationnelle, de plus en plus rationnelle dans son règne et dans son essence. Mais une méconnaissance, pour finir, aussi efficace s'agissant d'interdire aux acteurs de se gouverner en raison. Cette conclusion est cependant hâtive, parce que ce ne sont pas de mes connaissances comparables qu'il s'agit. La nôtre a au moins l'avantage qu'elle autorise dans le principe son propre dépassement. Elle autorise en tout cas son questionnement. Et ce sont ces chances de questionnement que nous aurons à examiner avec les appuis que semblable critique, qui n'est pas la critique qui alimente la mécanique, est susceptible de trouver, malgré tout, dans ce monde dont la pente spontanée est de nous en éloigner.
Je vais vous poser deux questions. La première à propos de l'économie d'innovation. Est-ce que tout de même vous ne prenez pas dans un sens un peu restrictif, c'est-à-dire que l'économie d'innovation est une nouvelle automatique, de nouveaux robots, de nouvelles technologies, moins peu d'emplois, etc. Donc il y a un autre sens pour donner à l'économie d'innovation. Alors, est-ce que votre approche englobe tout ça? Et puis, peut-être, à propos de la contestation de l'économie pure du capitalisme généralisé, il existe des contestataires, là, aujourd'hui, en Espagne, en Grèce, voilà, tout le mouvement populiste qui met en cause la mondialisation. Alors, pour vous, c'est rien, ce sont des chiens qui aboient et la carapace basse, bon, c'est une chose complètement marginale, mais cette agitation aux marges de ce capitalisme généralisé, quelle importance, quel outil donnez-vous pour l'apprécier?
Alors, sur le premier point, la réponse n'est pas difficile, je vous avais tout à fait raison, mais l'idée que j'essaye d'en donner inclut, j'en ai parlé très rapidement, inclut toutes les données dont vous parlez, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, mais justement, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est sur le fait de ne pas réduire l'économie de l'innovation à la simple production d'objets technologiques nouveaux. C'est une de ces dimensions essentielles. Mais c'est un phénomène beaucoup plus général. L'économie de l'innovation, c'est effectivement aussi la relecture marchande des besoins humains, par exemple. Ça me semble tout aussi important, si ce n'est plus, pour finir, quand on considère justement, c'est un pont aux ânes de l'observation des économistes d'aujourd'hui, que nous allons vers des sociétés de services. Mais c'est quoi une société de services? C'est précisément une société où des activités qui étaient remplies par tout un chacun au titre de l'économie domestique, par exemple. Un service nouveau, innovant, hein, c'est la location d'une personne pour vous accompagner au restaurant et vous faire la conversation avec haut niveau de diplôme garanti et plus si affinité, mais ça c'est hors du contrat. Bon, mais voilà. Vous pouvez marchandiser les rapports sociaux. C'est tout aussi important, c'est ça. Comme vous pouvez optimiser toute organisation. Ça, c'est le modèle gestionnaire. Ça fait partie de l'économie de l'innovation, dont le principe est de ne considérer aucune forme sociale comme établie à la lumière du calcul de l'efficacité économique potentielle. cette efficacité économique n'ayant pas du tout le même sens. Les gens ne sont pas fous dans des registres, quand vous êtes dans un service d'urgence hospitalier ou quand vous êtes dans une administration publique ou dans une entreprise privée. Mais ce qui compte, c'est l'application de ce mode de raisonnement. C'est ça qui me fait parler de capitalisme généralisé. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'imposition, hein, encore une fois, via la consommation de gamme permanente de nouveaux produits. Ça, c'est un aspect, ça va bien au-delà dans une espèce de révision générale de l'activité collective. Alors, sur le deuxième point, écoutez, j'aurais envie de vous répondre par une boutade. Les contestataires dont vous parlez, en Espagne ou en Grèce, ce ne sont pas, malheureusement, ce ne sont même plus, malheureusement, les chiens qui aboient quand la caravane passe, c'est les chiens qui aboient pour demander que la caravane s'arrête et distribue un peu ce qu'elle véhicule avec elle. Donc, ça ne me semble pas porter, on verra. J'espère me tromper. Malheureusement, je ne me trompe pas souvent de ce point de vue. Que je ne vois rien de comme à la base un marxisme totalement délavé, pas beaucoup d'efforts intellectuels, et en revanche une attente intense de redistribution. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en effet, nos systèmes de redistribution sont soumis, c'est parfaitement compréhensible dans la période où se trouve l'économie européenne, à une très forte pression qui emprunte un langage éventuellement radical, mais dont l'objet n'est même pas la sociale, est très loin même de la social-démocratie de la grande époque, qui portait avec elle un projet de société, qui avait une idée de... qu'on peut juger bonne ou mauvaise, mais qui avait un véritable projet. Là, c'est le degré zéro. C'est distribuons, point.
Le capitalisme généralisé est beaucoup plus inégalitaire.
Oui, donc il déclenche des conflits de distribution. Mais ces conflits de distribution ne le mettent nullement en cause dans son principe. Qu'est-ce qui se passe au contraire? C'est que plus la demande de redistribution s'accroît, plus les gouvernants vont vers des politiques libérales supposées de nature à accroître l'efficacité du système économique. La demande de redistribution alimente les politiques de dévolution à une économie libéralisée, efficace, donc supposément plus efficace, et à dire vrai, personne n'a la martingale d'une économie plus efficace, pour satisfaire ces demandes de redistribution. Raison pour laquelle elles sont accueillies avec sérénité et tranquillité d'âme par les plus intelligents des responsables publics, y compris de la droite libérale la plus caractérisée. Ça les dérange pas. Ils ne vont pas forcément les satisfaire, mais ça ne leur paraît pas porter une remise en question. Ils disent, ben oui, justement, on va faire des réformes pour améliorer la croissance. Tout va bien.
Je voudrais vous remercier de ce que vous avez dit là sur le capitalisme généralisé et ce nouveau concept que j'entends pour la première fois de l'économie de l'innovation.
Ah non, il est banal, hein, mais je tiens à me...
En tout cas, vous ne savez pas à quel point ça s'opère depuis quelques années dans le travail social. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant et d'effectif puisque c'est un champ de travail. Et ce qui m'étonne justement, et j'attends avec impatience votre prochain cours, c'est la passivité et l'absence de réactivité justement des acteurs eux-mêmes. Par exemple, des dirigeants des institutions sociales qui se mettent eux-mêmes en concurrence et des politiques qui énoncent la légitimité de mettre en place des appels d'offres au nom de l'égalité, du respect de l'égalité entre les institutions, en niant la concurrence à laquelle il est mêlé. Voyez, et là, vraiment, il y a quelque chose qui me semble très, très juste dans votre démonstration. Et moi, en tout cas, je suis friande d'auteurs économistes qui parleraient de ça. Je connais quelques sociologues qui s'en occupent. Et je pense aussi que les usagers du travail social, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, les personnes âgées, les parents qui s'inquiètent pour l'éducation de leurs enfants, etc., pensent que ce système va leur rendre de meilleurs services. Enfin, c'est vraiment le truc du hamster là, que vous décrivez. Donc moi, je veux témoigner en tout cas que ça correspond tout à fait à ce contre quoi j'essaie de travailler sans y parvenir complètement. C'est un sens tout à fait porteur de compréhension de à la fois de la passivité des acteurs, des usagers et des gens qui portent le travail social et des dirigeants politiques. Peut-être que c'est dû au fait aussi que le travail social était né de ce siècle des Lumières qui est complètement tombé en désuétude. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui me semble tout à fait intéressant. Voilà, je voulais vous remercier.
L'absence de contestation vraie dans une ambiance de critique généralisée, hein, superficiellement, tout le monde gueule, mais sans armer cette critique d'une compréhension de ce qui se passe est le phénomène très frappant. Entre autres choses, je veux juste introduire une dimension supplémentaire par rapport à ce que j'ai dit en allant en relevant et en insistant sur une observation que vous avez faite. Ce système de fonctionnement transforme tout le monde en acteur, y compris les usagers, en faisant des demandeurs, c'est-à-dire des consommateurs actifs. Donc, qui sont pris dans une mécanique où on leur demande, c'est la demande sociale, c'est personne ne leur dit quoi que ce soit, de se conduire comme des, non pas simplement comme un usager, non, comme un acteur de consommation qui exerce une pression, donc qui est fait pour exercer une pression concurrentielle sur les institutions. Et ça, c'est un élément clé de la légitimation au quotidien de ce mode de fonctionnement. Tout le monde y trouve son compte d'une certaine manière.
Je une question sur le rôle des années 60-70 dans le cadre de la radicalisation de la modernité. Parce que je peux dire dans les mouvements des années 60 qu'il y a un côté, on peut dire, individualiste avec le refus de la société comme oppressive, ma il y a un côté aussi très idéologique, avec le réveil révolutionnaire, avec la révolution culturelle in Chine, avec le sollecitation peut-être dei nouveaux philosophes in France.
C'est la fin. Les nouveaux philosophes.
Sì, je peux dire, il y a une conséquence involontaire che dans l'année 70, avec la fin de la rébellion révolutionnaire, ce côté individualiste a un incontro paradoxal avec le libéralisme de Thatcher Reagan, mais c'est une conséquence involontaire. Et je voudrais voir votre avis.
Eh bien, en effet, c'est une chose dont on a pas mal parlé dans le passé de ce séminaire, parce que là, on arrive après. Mais je crois qu'il y a eu je crois qu'on peut interpréter ça comme un processus de décantation, justement, où on a eu une alliance de contraires, c'est-à-dire réactivation, une espèce d'ultime flambée de l'idée révolutionnaire, sous un jour assez transformé par rapport à l'orthodoxie lénino-stalinienne, disons, et puis contre-culture au départ, qui devient une culture dominante. C'est un processus, comme on en a vu d'autres dans l'histoire, à double face, dont l'une des faces prend le dessus, in fine, sur ce qu'on voyait d'abord. Ce qu'on voyait au premier chef, en 68 ou immédiatement après, c'est évidemment la phase de subversion politique, et ce qu'on minimisait, c'était la dimension contre-culturelle, Et c'est l'inverse qui l'a finalement emporté. C'est-à-dire que l'idée de révolution a été mise de côté. En revanche, cette contre-culture qui émerge sous un signe révolutionnaire devient la culture dominante d'une société libérale ou néolibérale accomplie. Je crois que c'est à peu près de cette façon qu'on peut décrire un processus de décantation.
Je voudrais juste revenir à la question du changement. Et je pense que réduire ces mouvements de contestation en interne et à l'externe à des simples questions de redistribution, c'est vraiment les réduire. Je veux dire, j'ai la chance de lire et de comprendre le grec, hein, pas l'espagnol, mais j'ai la chance de comprendre le grec. Et ce qui se dit, c'est autre chose que la simple redistribution. Ce qui se dit d'abord, c'est un mouvement, moi j'ai l'impression que c'est un mouvement de souveraineté nationale, ça veut dire d'indépendance nationale vis-à-vis des politiques qui depuis deux siècles viennent de l'extérieur. Vous voyez, je veux dire qu'il y a cet aspect-là. Il y a, bien sûr, il y a une demande de redistribution, mais il faut dire que l'État auquel l'endettement et les politiques d'austérité ont amené la société, c'est assez lamentable. Je veux dire, il y a une véritable crise humanitaire, et dans ce cas, il y a. Et après, il y a un autre aspect qui me touche profondément, il y a une réappropriation de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a un sens profondément historique de ce qui se passe dans ces pays depuis disons, deux siècles. Donc c'était juste un bémol, pour ne pas dire que tout cela ne voit pas. Peut-être il n'y a pas une analyse scientifique, et pas par tout le monde. Hein. Et il y a une pensée, il y a souvent une véritable pensée. Mais ce n'est pas effectivement une pensée scientifique collective. Hein.
Non, mais effectivement, mon propos était hâtif et réducteur. Évidemment qu'il faut incorporer, mais d'une manière générale, au-delà du cas grec ou du cas espagnol, en arrière-fond, des aspirations qui tiennent d'abord aux énormes frustrations que ce mode de fonctionnement suscite chez les individus, quelques consentements qu'ils y aient. Ils sont dans la contradiction. On est dans la contradiction. Donc, que cette dimension s'exprime, assurément. Par ailleurs, que aujourd'hui, il y ait un enjeu autour de la question de la souveraineté, partout, mais évidemment dans le cas de pays dominés, comme c'est spécifiquement le cas de la Grèce, c'est moins vrai de l'Espagne. Mais encore que, parce que tout simplement, dans la structure de redistribution européenne, plus vous êtes dépendant de la redistribution, plus effectivement vous ressentez durement ensuite les conséquences qui s'en suivent. C'est évident. Et dans le cas grec, elles sont maximales, ces conséquences. Il y a d'autant plus un enjeu de souveraineté dans toutes ces contestations que c'est une chose dont je n'ai pas parlé parce que je ne pouvais pas parler de tout et que ça ne portait pas directement sur mon sujet, mais que l'accroissement des inégalités dont nous parlons, dimension évidemment capitale de ce mode de fonctionnement, tend à se concentrer dans son expression politique autour de la question de l'appartenance politique. Parce que, en gros, c'est la vraie fracture politique de nos sociétés. Les gagnants sont ceux qui peuvent jouer de la désappartenance, de l'extérieur, les bénéficiaires de la globalisation, ceux qui en participent d'une manière ou d'une autre, qui peut être lointaine, qui peut être très directe, et ceux qui sont, si je puis dire, la contradiction entre les locaux et les globaux. Les locaux, c'est ceux qui sont condamné à l'inscription dans un espace politique limité, qui n'ont pas les moyens de jouer de l'extérieur, et ceux qui peuvent tirer bénéfice du rapport à l'extérieur, les globaliser. Du coup, évidemment, que la tension politique tend à se porter effectivement sur la question de la souveraineté nationale d'une manière assez naturelle. Et je suis content d'apprendre que même la réflexion sur l'histoire, qui n'était pas a priori très développée dans le cas, pour ce que j'en ai compris, reprennent des couleurs. Le destin collectif, c'est comme ça qu'il s'exprime. Donc, que toutes ces dimensions soient présentes, ça me semble normal et compréhensible. Ce sur quoi portait mon appréciation cavalière, c'était plutôt sur ce qui paraît constituer la ligne de proue, l'axe principal de ce qu'on perçoit. Alors que tout ça germe, soit en fermentation et produise un jour des effets, je non seulement je suis prêt à le croire, mais ça me semble dans la logique des choses. Cela dit, ça ne me paraît pas de l'actualité brûlante immédiate, malheureusement.
À l'intérieur du pays, peut-être que c'est ça.
Eh bien, tant mieux. Je ne pourrais que m'en réjouir.